Session Introduction à la philosophie première par le père Philippe Arimon, le 19 avril 1993, premier cours.
On verra les questions au début de l'après-midi pour avancer. Puisque c'est la dernière journée. Alors tout va très vite, la dernière journée. Je reprends rapidement ce que je disais hier au soir, parce que certains m'ont dit que leur intelligence était un petit peu fatiguée. Je leur ai dit, c'est leur corps qui sont fatigués. C'était pas leur intelligence. Mais quand le corps est trop fatigué, il pèse lourd. Je ne reprends pas l'induction de l'être en acte. Elle est commandée, n'oubliez jamais, une induction est commandée par l'intensité de l'interrogation. L'interrogation mobilise notre intelligence dans un appétit découverte. Le chien de chasse qui veut découvrir le gibier. Et le gibier, c'est le principe pour le philosophe. Un gibier noble. Ce qui nourrit l'intelligence. Les principes propres nourrissent l'intelligence. Déterminent et nourrissent l'intelligence. Déterminent l'intelligence qui veut saisir les choses de l'intérieur. Parce qu'une cause et un principe, c'est une source, toujours cachée, mais qui permet de comprendre tout ce qui vient après, qui devient comme intelligible. Vous voyez, la cause, qui est la substance, me fait découvrir toute l'intelligibilité et toute la signification des dix prédicaments. Et tant que je n'ai pas découvert cette cause, les prédicaments sont saisis de l'extérieur, les dix prédicaments. À la manière d'une quantité de professeurs qui ne voient dans les prédicaments que le point de vue logique. Alors que c'est beaucoup plus que ça. Cette seconde induction me conduit donc à la distinction de l'être en acte et l'être en puissance. Et dans la lumière même de cette découverte, je reviens sur mes grandes expériences d'où je suis parti. Et je vois que cette distinction de l'être en acte et en puissance me permet de découvrir d'une façon toute nouvelle être en acte, laisser, en latin, je prends laisser puisque tout le monde l'emploie, mais c'est l'infinitif en latin de être tout simplement, du verbe ego sum, esse, c'est l'acte de la substance. C'est ça que c'est l'acte substantiel. Donc c'est l'acte dans l'ordre de l'être qui est tout à fait premier. Cet acte se distingue de l'être en puissance radicale qui est le point de vue de l'essence. Alors, il y aurait des quantités de choses à dire ici. Parce que le mot essence prend des significations tellement différentes. Et ordinairement, vous savez bien, on parle de thèse thomiste. Et on dit la thèse première thomiste. J'aime pas du tout ça, mais c'est comme ça que la tradition scolastique en a parlé. première distinction dans le thomisme, distinction entre essence et existence. Dans toute réalité, il y a une distinction réelle entre essence et existence. Il faudrait dire, en toute réalité créée, il y a une distinction entre essence et existence. Or, s'il s'agit d'une réalité créée, on est devant un jugement de sagesse. On a déjà découvert l'existence de l'être premier comme créateur. Quand je vous vois, je ne dis pas premièrement au plan philosophique « Quelle belle créature !» Non, c'est pas inscrit sur votre fond, je suis une créature. Je dis une réalité. Pour dire créature, c'est un jugement de sagesse à partir de l'existence de l'être premier créateur. Et à partir de là, je dis, tous ceux qui ne sont pas l'être premier sont des créatures. Vous voyez, c'est là où on voit qu'on a confondu la voie d'induction et le jugement de sagesse. Ce qui aboutit à faire que dans la scolastique décadente, on est constamment en face de ce qu'on appelle l'erreur de l'ontologisme. L'erreur de l'ontologisme, c'est de confondre l'intelligibilité d'une réalité, sa quiddité, ses rationes, et son exister. Du fait même qu'on saisit l'intelligibilité d'une réalité, on dit elle existe. Oui, on passe de la signification intelligible à l'exister. Ce que dit Descartes. Donc on reste dans l'ontologisme. Et il y a un ontologisme de droite, il y a un ontologisme de gauche. L'ontologisme a appelé la réaction violente des idéologies athées. Et les idéologies athées ont de commun avec la scolastique décadente qui implique un ontologisme d'être elle aussi un ontologisme. Alors, c'est le chien et le chat qui ne peuvent pas se supporter. Vous voyez, ce serait très intéressant de voir dans l'histoire de la philosophie européenne, de voir comment l'ontologisme a gagné, j'allais dire, la sacrée droite philosophique. Et a appelé une réaction violente de la sacrée gauche philosophique, les idéologies athées, qui se regardent comme chien et chat. Et ça a des influences politiques. On vit ça, hélas. Et on ne redécouvre plus ce qu'est l'homme. Oui, c'est là où la philosophie a une grosse influence. Si on voit l'état de la France au point de vue politique aujourd'hui, ça dépend des idées. Et ça dépend d'un ontologisme. Vous voyez que c'est difficile de rétablir la position. Ça date du XIVe siècle. Bon, alors, la substance et l'essence, capacité d'exister. Capacité d'être en acte, d'exister. Voilà ce que c'est que l'essence. L'essence n'est intelligible que lorsqu'elle existe. Autrement, je la possède comme une idée. Cette capacité d'exister. Je vous disais la vérité. Donc ici, je suis au niveau de l'être en tant qu'être. Donc vraiment, ce cas de tout à fait premier. La vérité, c'est au niveau de l'esprit. La vérité, elle est l'acte de mon jugement, de mes jugements. Un jugement peut être vrai, peut être faux. Et donc, la vérité acte implique nécessairement ce qui est capable d'être vrai. Vous voyez, quand on cherche, nos jugements ne sont pas, sont encore très imparfaits. On cherche la vérité. Et quand on atteint la vérité, ah, on touche l'être en acte dans l'intelligence. L'analogue de l'être en acte dans l'intelligence, la vérité. La bonté. La bonté, l'amour. L'amour est tout entier tendu vers la vérité. Et capacité d'aimer. La volonté. La volonté est une puissance capable d'aimer. Comme le jugement implique une capacité de connaître, de juger, l'intelligence. Mais c'est ça qu'il faut tout de suite comprendre. Hein. L'acte est indivisible. Et la puissance implique du plus et du moins. On est plus ou moins en puissance. On est plus ou moins proche de l'acte. Donc il y a toute une série de être en puissance. Au niveau de la vie, opérations vitales. Les opérations vitales. Alors là, toute la gamme des opérations vitales. Écoutez, opérations vitales. On est en acte. On écoute. Puis on est capable d'écouter. Opérations vitales, toutes les capacités de puissance vitale. Je suis capable de voir et je vois. Ce que les scolastiques a appelé l'acte premier, l'acte second. J'aime pas ça. Il faut prendre tout simplement la terminologie beaucoup plus pure, ce qui est en acte et ce qui est en puissance. Puis alors, le mouvement. Le mouvement, c'est au niveau du monde physique. Le monde physique est actué par le mouvement. C'est pour ça qu'il est toujours en mouvement. Et la capacité d'être en mouvement, le corps, la matière, capacité de changer, capacité d'être en mouvement. Alors vous voyez que c'est ça qui est important et intéressant à voir, que cette découverte de l'être en acte et de l'être en puissance reprend, non pas, ne fait pas la synthèse, mais reprend dans une nouvelle lumière toutes les parties de la philosophie. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que je retrouve les niveaux d'intelligibilité. Le monde physique, le monde de la vie, le monde de l'esprit, l'être. L'être est présent dans tout ceci, mais il a quelque chose de propre, parce que lui aussi, et l'acte de l'esprit. Alors, vous voyez qu'il faudrait développer tout cela pour bien entrer dans toute la métaphysique de l'être en acte et en puissance. Il faut du temps. Mais c'est important de voir que cette découverte de l'être en acte et en puissance, qu'on a complètement oublié dans le thomisme, décadent, dans la scolastique. Je prends un petit témoignage de ça, de quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, qui a écrit un petit livre sur la philosophie de saint Thomas, le père Gardeil. J'ai regardé la table des matières, substance et accident, première division de l'être. La division de l'être en acte et en puissance, non. Alors que c'est capital. Mais je vous dis, depuis Don Scott, faut quand même le dire, notre bienheureux, mais maintenant il est d'accord avec ce que je dis dans le ciel, vous comprenez, depuis Don Scott, la causalité finale a été mise en veilleuse. Et ça, c'est très grave. Je crois que le grand effort du philosophe aujourd'hui, c'est de redécouvrir la vraie finalité. Et la vraie finalité, on la découvre pleinement que lorsqu'on découvre l'être en acte, distinct de l'être en puissance. C'est pour ça que pour moi, l'induction de l'être en acte et de l'être en puissance, c'est, comprenez bien, le sommet de la découverte. Si découvrir la substance, c'est le Mont Blanc, la découverte de l'être en acte, c'est l'Himalaya. Et c'est intéressant de parler à des gens qui connaissent l'Himalaya. Le Mont Blanc, c'est plus connu. C'est vraiment la découverte suprême, c'est l'être en acte et en puissance. Il faut le redécouvrir, ça. Chacun d'entre nous. Avec des petits pas. Ça n'a pas d'importance. Et une fois qu'on a découvert ça, alors on voit l'éclatement de tout ça. Qui manifeste tout ça. Et alors, toute la philosophie reprend. Toute la philosophie, grâce à la métaphysique, reprend toute une lumière nouvelle. Alors, ce qui est intéressant à noter, c'est que, ayant découvert l'être en acte qui est premier, l'être en puissance qui est second, c'est-à-dire tout entier ordonné à l'être premier, à l'être en acte, c'est l'être en acte qui donne à l'être en puissance toute son intelligibilité. L'être en acte commande toute l'intelligibilité d'être en puissance. Je peux, à partir de là, exprimer le principe de finalité au niveau métaphysique. Tout ce qui est en puissance est ordonné à l'acte. Mais c'est une finalité vue au niveau de l'être. Et je peux, en fonction de ces cinq modalités, exprimer les cinq modalités du principe de finalité. Toute essence étant donnée à l'acte. Toute intelligence, tout acte d'intelligence étant donné à la vérité. Tout amour provient du bien étant donné au bien spirituel, personnel, quand il s'agit d'amour spirituel. Toute capacité d'opérer étant donnée à l'opération vitale. Et tout corps, toute réalité physique est ordonnée au mouvement. Je crois que ça, c'est très très important. Entre nous, mettez ça en autovéné, parce que faut pas le mettre à la suite. Entre nous, si vous comprenez ça, vous pouvez comprendre la structure des cinq voies de Thomas d'Aquin. Tant que je n'ai pas découvert ça, j'ai mis du temps. Je ne comprenais pas les voies de saint Thomas. Et une fois que j'ai découvert ça, j'ai dit, ah, voilà le fondement philosophique des cinq voies de saint Thomas. Alors, vous voyez, j'ai dit ça tout de suite parce que c'est intéressant à réfléchir là-dessus. On ne découvre l'existence de l'être premier que par la finalité. Contrairement à toutes les apologétiques qui veulent découvrir l'existence de l'être premier par la causalité efficiente. L'œuf et la poule. Et on ne peut pas découvrir l'existence de l'être premier par le point de vue de la causalité efficiente. C'est l'erreur de toutes les apologétiques. Et Descartes en est le maître. Parce qu'il était pieux. Sa foi était branlante, mais il était pieux. Oui, mais c'est pas un contemplatif. Mais il pratiquait. Il avait de la dévotion. Il était chrétien. Mais qu'est-ce que ça signifiait pour lui? Très difficile à savoir. Parce que le Dieu de Descartes n'est pas du tout le Dieu chrétien. Et là, Pascal a raison. Mais la philosophie de Descartes est une idéologie. Première idéologie. Une idéologie de droite. Bon, alors, une fois que j'ai découvert les deux grandes voies d'accès, je peux, à partir de là, essayer de comprendre le problème de l'un et du multiple. Un grand problème de philosophie. Le problème numéro un de des néoplatoniciens. Pour les néoplatoniciens, l'un est au-dessus de l'être. L'être est au niveau de l'intelligibilité. Vous voyez l'ontologisme qui naît du néoplatonisme. L'être est au niveau de l'intelligibilité et l'un est au-dessus. Parce que l'un implique la négation du divisible. L'un, c'est l'indivisible. Alors, par la négation, c'est quelque chose qui transcende tout. L'un est premier. Aristote se trouve en face de Platon. Et pour Platon, l'un est au-dessus de l'être. Il y a eu tout un effort énorme d'Aristote pour essayer de détrôner l'un et de comprendre que l'un est acolyte de l'être. Acolyte, c'est-à-dire propriété. Celui qui accompagne, celui qui suit de temps en temps. Quand vous avez des petits enfants de cœur, ils suivent. Quand vous avez des grands enfants de cœur, ils sont devant. Dans les processions, c'est très joli de voir ça, les petits enfants de cœur qui suivent sa pote, mais se vendent devant. Acolyte. Ils sont à côté. Le mot grec, acolyte, ça veut dire suivre. Il suit. Alors, il faut comprendre que l'un est propriété de ce qui est. Propriété de ce qui existe. Et le multiple est propriété de ce qui est en puissance. Ce qui est en puissance est toujours divisible. Et donc, il est source du multiple. Alors vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5 sources multiples. C'est intéressant de voir ça. Et les 5 sources d'unité. Il y a une unité au niveau de la substance et de la substance en acte. Donc de l'exister. L'unité de la vérité, l'unité de la bonté, l'unité des opérations vitales, l'unité du mouvement. Mais vous comprenez bien que l'unité du mouvement, c'est toujours une unité du continu. C'est pour ça que le mouvement le plus parfait, c'est le mouvement circulaire, parce qu'il est parfaitement continu. Il est un. Alors, je n'entre pas dans ce problème, quoique ce soit très important, puisque c'est la découverte de la propriété de ce qui est un, qui nous permet de comprendre que la philosophie première a un statut scientifique. Aristote nous fait comprendre que le propre de la connaissance scientifique, c'est de connaître par les causes, par les principes, et donc de rattacher telle détermination à quelque chose qui est antérieur à elle, qui est sa source, son principe, sa cause. Et ce n'est que quand j'ai rattaché telle qualité à sa source que j'ai une connaissance scientifique. Alors, évidemment, le mot connaissance scientifique a pris depuis le 15e et 16e siècle une signification toute nouvelle. Puisque la connaissance scientifique, c'est la connaissance des lois. Et non plus des principes et des causes. Alors là, je n'entre pas dans ce problème. C'est un problème critique extrêmement intéressant. Mais c'est pour vous montrer que lorsque je découvre que l'un est propriété de ce qui est, je suis en face d'une conclusion scientifique au niveau de la philosophie première. Tout ce qui est, en tant qu'il existe, en acte, est un. Tout ce qui est, en tant qu'il est en puissance, est source de multiplicité. Oui. Donc l'un et le multiple ne divisent pas l'être immédiatement. Les deux grandes divisions de l'être, c'est substance, accident, l'être en acte, l'être en puissance. La propriété, c'est une redondance. L'un et le multiple divisent bien l'être, mais par l'intermédiaire de la substance, par l'intermédiaire de l'acte. Vous voyez que là, jusque maintenant, nous avons vu la structure de l'analyse de la philosophie première. Je résume, hein, pour ceux qui aiment les conclusions, parce que ça, ils peuvent la retenir par cœur, ça, ils savent la métaphysique. Je résume, la métaphysique et la science la plus parfaite, comme science. C'est la science de ce qui est en tant qu'il est. Cette science me permet de découvrir la cause propre de ce qui est en tant qu'il est, selon la forme. C'est la substance. substance qui se distingue des accidents, c'est-à-dire de tout ce qui est secondaire. Tout ce qui arrive, accident, c'est ce qui arrive. Une tuile vous tombe sur la tête, c'est accidentel. Et donc c'est multiple. Une fois qu'il y en a une, il y en aura plusieurs. Tandis que la substance est toujours une. La cause propre, selon la fin de ce qui est en tant qu'il est, c'est l'être en acte, qui se distingue de l'être en puissance. Et lorsque j'ai ces deux grands axes de la philosophie première, je peux comprendre alors que tout ce qui est en tant qu'il est, du côté de sa détermination, est un. Tout ce qui est, en tant qu'il est, du côté de sa fin, est un. Mais tout ce qui est, en tant qu'accident, est multiple. Tout ce qui est, en tant que puissance, est multiple. Nous allons maintenant voir le dernier moment de la recherche de la philosophie première. C'est le problème de la personne. La philosophie première qui cherche ce qui est en tant qu'être, qui découvre ces deux causes propres, substance et l'être en acte, qui découvre la propriété de l'être qui est en acte et qui a une substance, nous savons, et Heidegger, là, nous oblige d'aller plus loin que la tradition n'a été. Il faut jeter un coup de chapeau à Heidegger à ce moment-là. Dasein de Heidegger. Selon la tradition scolastique, parle de la philosophie perennis, c'est-à-dire une philosophie qui ne bouge pas. Ce qui est très faux, hein. Parce que si la vérité est une, celui qui cherche la vérité est toujours en puissance. Donc il y a des niveaux différents. Et dès que j'écris au plan philosophique, j'écris ce que je connais. Donc, tous les écrits philosophiques ont toujours une potentialité et par le fait même se distinguent les uns des autres. C'est dans ce sens-là que les écrits philosophiques sont multiples, bien que la vérité philosophique est une. Bon, c'est le problème de la personne humaine. Le problème de la personne humaine a pris une importance énorme dans saint Thomas au plan théologique. C'est peut-être la grande originalité de la théologie de Thomas d'Aquin. C'est d'être une théologie de la personne. Ce qu'on ne dit pas assez. Si j'avais quelque chose à écrire sur Thomas d'Aquin, c'est ce que je ferais. Et j'en suis convaincu que c'est bien cela. Vous voyez, Étienne Gilson n'a pas mis assez en lumière ça. Il est parti sur le dada de l'essai. Et pas de la personne. Alors que c'est la personne qui montre l'originalité de Thomas d'Aquin. Mais la scolastique, à partir de Suarez, n'a pas introduit la personne au niveau métaphysique. Ce qui est une erreur. Plus exactement, ce qui est un manque. Et la philosophie première, la métaphysique, se termine avec l'un. Alors que, après le problème de l'un, il faut regarder le problème de la personne. Alors, il s'agit de situer le problème de la personne. C'est le problème de l'être le plus parfait qui existe pour moi. C'est l'expérience la plus parfaite que je peux avoir de l'être. Quand je dis je suis, vous vous souvenez que nous avons, au point de départ de la métaphysique, mis ceci est en parallèle avec je suis. Et nous avons opté comme point de départ de la philosophie première, ceci est, et non pas je suis. Mais je vous ai dit que la philosophie de l'être assume la philosophie de l'esprit. Il faut donc maintenant, dans la lumière de l'analyse de ceci est, comprendre cette expérience tout à fait originale du « je suis ». Chacun d'entre nous, nous pouvons, après cet effort philosophique de l'analyse du ceci est, revenir à notre je suis. Et je dirais comme dans l'Apocalypse, pensez tous à je suis. Une demi-heure de silence. C'est très riche, je suis. J'existe. J'ai une connaissance interne de l'être. Tandis que quand je reste, ceci est, c'est transcendant. C'est très bien le transcendant, mais on revient à l'immanent. Dans l'ordre de l'être. Et vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est de voir que tout le parcours de la philosophie première, c'est du ceci au je suis. Je suis parti de l'analyse de ceci est, en tant qu'il est. Et maintenant, j'aboutis où je suis. Le je suis n'est pas une conclusion. Vous comprenez bien. Cogito ergo sum, ergo, le petit coq français, vous voyez, ergo sum. Non, c'est pas du tout ça. Le je suis est l'expérience la plus intime, la plus forte que je peux faire. Je suis. C'est capital, ça. Alors, il faut situer, maintenant, cette analyse du ceci est face à cette expérience intime, personnelle du je suis. Un quart d'heure de silence.
Session Introduction à la philosophie première par le père Philippe Arimon, le 19 avril 1993, deuxième cours.
Alors comprenons bien que d'une certaine manière, toute la philosophie première part de l'expérience, découvre les principes. Les principes ont un mode abstrait, pas l'expérience. Et c'est pour ça que la métaphysique maintient toujours le contact avec ceci est. Il y a bien un concept d'être, mais on ne s'arrête jamais au concept d'être au niveau métaphysique. C'est la critique qui regarde le concept d'être. Là encore, je suis obligé de préciser, pour ceux qui connaissent un peu la scolastique dite thomiste de Suarez, c'est que la scolastique commencer par les transcendentaux, donc les rationels et les concepts. Alors que le problème des transcendentaux est un problème critique, donc présuppose la découverte des principes. Ce serait très intéressant, vous voyez, qu'on fait ce petit tableau, bien souligné, où l'abstraction formelle touche évidemment tous les principes. L'induction me fait entrer dans l'abstraction. Mais faisons attention quand je dis l'abstraction. L'abstraction saisit toujours quelque chose de réel. L'universel est un être abstrait qui modifie ma connaissance, mais ma connaissance saisit toujours quelque chose de réel. L'être en acte est réel. C'est pas du tout un concept. Et l'être en puissance est réel. Ce n'est pas du tout un concept. Que pour nous, nous l'avions appris comme un concept, oui, parce qu'on est tous plus ou moins contaminés par la scolastique. De Descartes. Tous les Français sont contaminés par Descartes. Alors il faut prendre de temps en temps un vaccin réaliste pour dépasser Descartes. Et tous les Allemands sont contaminés par Kant. Alors est-ce que ça fera l'Europe ? Il faut le voir, il faut être réaliste jusque dans la critique. Et comprendre que de fait, pour la plupart du temps, la philosophie, c'est abstrait. Mais non, la philosophie, c'est réel. C'est pour ça que je dis, et j'y tiens beaucoup, le passage de ceci est. Ceci est, c'est concret. Et je suis, c'est encore plus concret. Le « je suis », c'est le concret le plus parfait qui soit. C'est moi. Mais moi, pas au niveau psychologique. Moi, au niveau de mon être. J'existe. Et j'existe d'une manière unique. Je suis très heureux de vous rencontrer. Vous existez. Mais vous n'êtes pas mon existence. Je regrette. Vous me montrez mes limites de mon existence. C'est pour ça que Sartre dit que l'autre, c'est l'enfer. Parce que vous me montrez tout le temps mes limites. Sincèrement. Je voudrais tellement pouvoir avoir un être infini. Non. J'ai une pensée, une recherche infinie. J'ai une capacité d'aimer infinie. Je suis limité même dans mon amour. Mais l'ami répare mes limites. C'est ça qui est merveilleux. Alors, on va continuer à essayer de comprendre le je suis. Si tu es, bon, j'espère que le quart d'heure de silence, n'est-ce pas, dans l'éternité, a fait comprendre la différence entre ceci est et je suis. Entre deux, les deux grandes analyses. Les deux grandes divisions d'être, substance, accident, être en acte, être en puissance. Et j'aborde le je suis en profitant de ces analyses. C'est ça qui est merveilleux, vous allez voir. Et nous allons essayer de comprendre la personne humaine au niveau métaphysique. Il est grand temps de le faire. Autrement, nous avons tous une conception de la personne au niveau psychologique. C'est très bien la psychologie quand elle est dépassée par la philosophie. Autrement, on tombe dans le psychisme. C'est dangereux. Alors, que représente cette expérience intime, personnelle, par rapport à l'analyse? Ça représente l'expérience de la réalité humaine, qui est la réalité la plus parfaite que je peux expérimenter. Je touche l'acmé de l'être concret. Et je saisis bien un être concret. Donc, la manière d'exister. C'est pas l'être, c'est la manière la plus parfaite. Parce que quand il s'agit de l'être premier que les traditions religieuses appellent Dieu, je n'en ai pas l'expérience directe au plan philosophique. Il faut la foi pour avoir l'expérience directe de Dieu. Le philosophe peut, ayant découvert l'existence de Dieu comme nécessaire à poser, peut adorer Dieu, mais l'adoration de Dieu ne me fait pas toucher Dieu. L'adoration est une manière d'être qui fait partie de la personne humaine, comme nous allons voir. Bon, voyez donc, c'est, je le dis en grec, c'est le pos, le plus parfait, donc le comment, pour montrer à Auguste Comte que le philosophe ne se perd pas dans l'imaginaire, mais que le philosophe termine toute sa recherche sur l'homme. Vous vous souvenez de cette exposition sur l'évolution, c'était fait au Trocadéro il y a quelques années. C'était très beau, très intéressant. C'est terminé, une grande glace. Le Parisien se regardait. Terme de l'évolution. C'était fait exprès, hein. Je connaissais très bien celui qui l'a fait. C'est très joli. C'est tout l'humour d'un grand savant. Ouais, je suis le terme de l'évolution. évident. Ça pousse encore après, mais... Bon, alors, le poste, le comment de ce qui est. Mais le comment le plus parfait. Alors, je vais essayer de comprendre ce comment ne refuse absolument pas le TST. Donc, ce qui est, les principes. Les principes propres de ce qui est. Mais, les regarde dans leur manière d'exister. Donc, de façon concrète. Je peux toujours regarder un principe comme principe et je peux le regarder dans sa réalisation concrète. Dans son comment. Mais c'est le TST et le POS. Ça, c'est tellement important. La substance regardée d'une manière concrète en moi. La substance regardée d'une manière concrète en moi. C'est quand même moi. C'est je suis. J'existe. J'existe avec mon autonomie. Je sais que c'est pas mon voisin qui m'a donné l'être. Même pas mes parents. Puisque je peux découvrir que par mon âme spirituelle, je suis un point de départ. Puisque c'est Dieu directement qui l'a créé. Si on savait ça, comme il y aurait moins d'angoisse par rapport à l'autorité des parents. Mais le gros problème, c'est ça, c'est que ces parents qui existent, on voudrait tellement les supprimer. La fivette les supprimera peut-être, alors comme ça, on arrivera à avoir une humanité complètement autonome. On oublie que l'autonomie foncière, c'est mon âme, la substance. J'ai une autonomie dans mon être. Aucun être autour de moi ne peut diminuer mon être. Donc, je commence à réfléchir tout ce qui est impliqué dans mon je suis. Et là, je peux toujours, toujours revenir à l'expérience. Et je suis au niveau de l'expérience. Et au niveau concret, premièrement, autonomie. Dans mon être, dans mon exister. Je suis et je ne suis pas les autres. Et les autres ne sont pas moi. Je ne dis pas que c'est ma propriété. Mais je suis farouche là-dessus. Métaphysiquement, je suis farouche. Et je dois l'être. J'existe d'une façon concrète, même mon existence, mon autonomie. C'est ma substance, c'est mon âme qui est dans mon corps et qui anime mon corps. Et ma substance, c'est mon corps et mon âme. Et c'est ça qui me donne mon autonomie. Je sais bien que par mon corps, mon autonomie est relative, parce qu'on peut le toucher. Et un mauvais diable peut le toucher et me donner la lèpre. C'est embêtant. À cause du corps, je suis vulnérable. Mais il y a une autonomie plus radicale, celle de l'âme. Même si mon corps est malade, je peux être autonome. Quelquefois, je gagne en autonomie intérieure quand mon corps est malade. Parce que je ne me disperse pas. Je suis obligé de ralentir mes activités. Et intensifier, je peux intensifier mon intériorité. Donc, l'autonomie. Le moi, le je suis. Donc, implique l'âme et corps. Donc, une autonomie individuelle, tout à fait originale, unique. Mon chiffre biologique. Et plus profondément, j'ai un chiffre intérieur de mon âme. Parce que je ne peux pas le mesurer. Il échappe à tout regard scientifique. Mais je suis unique dans mon âme. Vous ne pouvez pas me remplacer. C'est quand même quelque chose. Mais je suis... J'ai un esprit grâce à mon âme spirituelle, une intelligence qui recherche la vérité. Je sais que mon intelligence est parfaitement elle-même que quand elle recherche la vérité. Parce que la vérité est le bien de mon intelligence. La vérité est ce qui finalise mon intelligence. Et donc je suis parfaitement intelligent quand je recherche la vérité. Je suis capable d'aimer. Et j'aime. Ma capacité d'aimer que dans la mesure où j'aime. Chaque fois que vous aimez en acte, vous devenez plus capable d'aimer. C'est ça qui est merveilleux. Parce que vous saisissez mieux votre capacité d'aimer. Et c'est pour ça que chaque fois que vous aimez, vous avez un désir plus grand d'aimer. Il faut amorcer la vieille pompe. Si vous ne l'amorcez pas, bon, moi je ne peux pas aimer. Mais oui, vous pouvez aimer. Plus on aime, plus on est capable d'aimer. Et plus on a soif d'aimer. Donc, capacité d'aimer, la volonté. Les deux grandes dimensions de mon esprit. Ça fait partie du je suis. Quand je cherche la vérité, je sais que cette recherche de la vérité fait partie de ma personne. Quand je suis capable d'aimer, ça fait partie de ma personne d'être capable d'aimer et d'aimer. Et on verra au terme, une fois qu'on aura énuméré tout, on mettra un ordre. Qu'est-ce qu'il y a encore? Mon intelligence peut être d'ordre pratique. Ah! Là, elle est spéculative. Elle recherche la vérité pour elle-même. Pratique. En ce sens que mon intelligence peut me diriger, me conduire, organiser ma vie. Je suis capable de m'organiser. Et ceci grâce à la prudence. Mon intelligence pratique ne me fait pas découvrir, ne me donne pas ma faim, mais m'organise. Donc elle ordonne. Elle ordonne toutes mes capacités, concrètement. Et ça fait partie de ma personne. Et mon intelligence pratique est aussi artistique, l'art. Ma capacité de transformer l'univers, ma capacité de transformer mon voisin ou ma voisine, c'est un art pédagogique, n'est-ce pas? Je peux le transformer, je peux le séduire et le transformer, je peux jouer avec, il me suit comme un petit toutou. Je suis capable de faire ça. Alors, évidemment, je ne dis pas toujours que c'est bien. capacité vitale. Et je suis capable aussi de transformer l'univers. L'art. Et vous voyez, toute l'extension de l'art aujourd'hui, hein, toute la capacité que l'homme, le pouvoir de l'homme, le pouvoir de transformer avec la technique. La technique est au service de l'homme. Et ça fait partie de sa personne. Je peux développer plus ou moins. Mais je sais, il ne faut jamais l'oublier, je sais que mes capacités vitales sont limitées. Et si mes capacités vitales sont limitées, ce que je donne à la recherche de la vérité, je ne le donne pas à la gestion de mon bien, la prudence. Je ne le donne pas à la capacité de transformer l'univers. 4, 3, alors 4, 5. J'énumère, hein? C'est intéressant quand même de voir. Mais tout ça, c'est quand même l'esprit, hein? Mais le corps apparaît. Le corps est toujours présent. Toujours présent. C'est l'âme et le corps. Dans ma recherche de la vérité, le corps est présent. Je sais que si je me fatigue de trop, je ne pourrai plus chercher la vérité. Je m'endormirai. Donc je fais attention à mon sommeil. Mais je sais que si je dors de trop, j'aurai toujours besoin de dormir plus. Je deviendrai une marmotte. Et donc, je domine un peu ce besoin de sommeil. Exactement comme pour manger. Si je mange trop bien, j'arriverai plus à chercher la vérité. Tout ça, c'est la prudence. Hein. Je gère mon corps. Je gère mes capacités de sommeil. Hein. En vue de. S'il n'y a pas la finalité, je ne gère plus rien. Je retombe dans l'instinct. Le je suis, qu'est-ce qu'il y a encore, le je suis? Il y a l'expérience que j'ai de mon corps, de mon individualité. Elle est présente là, mais là, elle est prise dans l'autonomie. J'ai une expérience de mon corps qui me met devant des limites. Par le corps, ne l'oublions pas, je suis partie de l'univers. Par le corps, je subis tout le climat dans lequel je suis. Remarquez que dans la recherche de vérité, il y a aussi le climat. Plus facile de rechercher la vérité quand on est religieux que quand on est attelé à la banque. Bon, la banque, c'est pas parce que je dis que la banque c'est le trône de Satan. Non, 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 pas du tout. Mais c'est plus difficile, que voulez-vous. Plus difficile, ça, il faut bien le voir. Et ainsi de suite. Donc il y a un climat dans lequel la recherche de vérité, pour mon intelligence, par mon corps. Et le corps m'individualise et me limite. Alors je dirais 6. Partie de l'univers. Je suis une partie. Alors que la personne, elle est un tout, puisqu'il y a une autonomie. Donc, il peut y avoir une petite tension Je suis un tout vivant. Un tout capable d'avoir son autonomie. Et en même temps, je suis parti. J'ajoute. Vous voyez ? Alors, ça vous fait toutes les dimensions, ça. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. La personne humaine a six dimensions. Je peux en ajouter une septième. Ce que je n'ai pas encore fait dans le « je suis », puisque c'est le « je suis » qui est au terme de l'analyse de ce qui est. Mais je peux le mettre tout de suite, parce qu'on n'a pas le temps de continuer suffisamment. Vous voyez tout de suite qu'après le problème de la personne, va se poser le problème face à l'être. La personne est-elle l'être premier ? Que les traditions religieuses appellent Dieu. Le problème de l'existence de Dieu, de l'existence d'un être premier, se pose à partir de la personne humaine. Et non pas de l'univers, trop complexe. À partir de la personne humaine. Après, je peux l'étendre. Et si j'arrive à découvrir qu'il existe nécessairement un être premier que les traditions religieuses appellent Dieu, le problème des relations de cet être premier avec ma personne humaine se pose. Et c'est tout le problème de la création. Et dans le problème de la création, par le problème de la création, je peux dire que ma personne humaine est créée. Septième dimension, je suis. Comme c'est curieux d'avoir les sept dimensions. Ça nous mène à sept dimensions au point de vue philosophique. Alors, je peux les ordonner maintenant. Hein, parce qu'une fois que j'ai vu sept, parce qu'en moi, il y a une multiplicité, mais il y a une unité. Mais l'unité qui est en moi, toute personne humaine réclame l'unité. Dans le « je suis », il y a une unité. Unité dans la complexité. La complexité, ce sont ces six points. Le chiffre de la bête est un chiffre d'homme. Six. Six, six, six. Vous comprenez pourquoi ? Parce que je réfléchis et je critique tout cela. Et je peux maintenant, parce que j'ai réfléchi dessus, ordonner. L'autonomie, elle est fondamentale. Mais elle ne me finalise pas. C'est très beau d'être autonome. C'est très beau d'être libre. Et si je ne sais pas quoi faire de ma liberté ? Je suis libre parce que je suis autonome. Et je suis libre dans la mesure où mon autonomie est grande. Tandis que la vérité, c'est une fin, c'est mon bien. C'est une fin. L'amour d'amitié, quand j'aime un ami, une personne humaine, un bien spirituel, un bien personnel, c'est une fin. Est-ce que la prudence est une fin ? Non. Gérer toutes mes capacités, ce n'est pas une finalité. C'est très important. C'est pour ça que quand le psychologue dit qu'il faut gérer son capital, ce n'est pas la finalité. C'est intéressant de savoir qu'on a des valeurs. Mais la valeur n'est pas la fin. Et l'art ne finalise pas non plus. Ça m'apporte des quantités de choses, mais ça n'est pas. Être partie de l'univers, ce n'est pas une fin. Donc il n'y a que deux fins. La troisième finalité, elle sera donnée dans « Je suis l'adoration ». Dépassement de l'homme qui regarde le Créateur. Donc, si je suis conscient, un citoyen métaphysique, si je suis conscient du je suis, je vois que le je suis, ma propre personne, n'a que deux finalités. La troisième provient de la découverte de l'existence de Dieu. Avec l'adoration et la contemplation. Et quand je dis que la troisième finalité provient, ne disons pas qu'elle est extrinsèque. Nous en dirons un mot cet après-midi. Elle est essentielle. La septième dimension est essentielle. Mais le 666 de l'Apocalypse mutile l'homme, puisqu'il ne regarde pas l'attitude religieuse. Mais il faut être honnête, hein, quand j'arrive, après l'analyse métaphysique, au je suis de la personne, je n'ai pas encore découvert l'existence d'un être premier. Je sais très bien que les traditions religieuses en parlent, ça me posera un problème. Les traditions religieuses posent un problème aux philosophes, mais ne résolvent pas le problème. Le problème doit être résolu au plan philosophie première. Donc, j'ai bien six dimensions dans ma personne. Très riche. Toutes les parties de la philosophie sont donc présentes dans la connaissance que j'ai de ma personne. C'est ça qui m'intéresse. Et la métaphysique me donne une conscience la plus lumineuse qui soit sur ce qu'est ma personne. Je comprends ce qu'il y a de si extraordinaire de pouvoir dire je suis. Je suis intelligent. Je cherche la vérité. Je suis capable d'aimer. J'aime. Je suis capable d'organiser ma vie le mieux possible en vue de la finalité de la vérité ou de l'amour. De la vérité et de l'amour, ça ne s'oppose pas. Je suis capable de transformer l'univers. Et je suis partie de l'univers. J'ai en moi une matière. Et je suis poussière comme les étoiles sont poussières. Radical dans ma personne, c'est une personne qui va jusqu'à la poussière. Une poussière très organisée. Non. Je connais un professeur de biologie qui me dit, magnifique cathédrale de molécules. C'est très vrai, je comprends très bien que le biologiste dit ça. Et le philosophe dit, quand il voit quelqu'une personne, un individu, il recherche-t-elle la vérité? Est-elle capable d'aimer, aime-t-elle? Est-ce qu'elle s'organise? Toutes ces questions-là pour savoir ce que c'est que la personne. Et c'est comme ça que je peux savoir ce qu'est la personne. Alors, encore combien de minutes?
3.
Je terminerai tout à l'heure. Il y a un problème extrêmement intéressant pour nous. C'est de mettre cela, ces 6 dimensions et ces 7, face à ce que dit le psychologue sur la personne. Alors, les psychologues, ils sont nombreux. J'en prends un qui m'a semblé particulièrement intéressant. Charles Audier. J'étais en Suisse, alors. Forcément, les Genevois apparaissaient particulièrement intéressants. Charles Audier. Et c'est vrai qu'il est très intéressant. Charles Audier essaie de comprendre qu'est-ce que c'est que la personne au niveau psychologique. J'ai pas le droit, au plan philosophique, de dire « la psychologie, ça ne sert à rien. La psychologie, ça ne dit rien. » Non. Le psychologue dit quelque chose. Je dis bien, il dit quelque chose. Il dit pas tout. Je ne veux pas abandonner la formation de la personne à la psychologie. Et vous allez voir pourquoi. Charles Audier dit, il parle du moi et des sentiments du moi. Vous voyez, on est en pleine psychologie. Je n'ai pas beaucoup parlé de sentiments, moi. Les sentiments du moi. Et Charles Audier dit qu'il y a 3 grands sentiments du moi forts. La sécurité, la valorisation, l'autonomie. Faites description. Alors, je réfléchis là-dessus en philosophe. La sécurité regarde le futur. L'autonomie regarde le présent. La valorisation regarde le passé. Les sentiments du moi, c'est à l'intérieur du développement de ma propre personnalité. C'est dans le temps. Je suis un être qui est dans le temps. Je suis dans le temps. Je suis né à telle date, j'ai tel âge, et je mourrai à tel âge. Donc, ma personnalité se construit dans le temps. J'ajoute que ces sentiments du moi, on les acquiert. On les acquiert dans la lutte. Pour être victorieux de ce que représente l'angoisse. Les dessins rouges, si vous voulez. Hein. Parce que ça. L'angoisse. L'aliénation. La culpabilité. Voilà ce qui vient tout le temps diminuer les sentiments du moi profond. Les sentiments forts du moi. C'est que je suis un être qui constamment risque de tomber dans l'angoisse, surtout aujourd'hui. Risque de considérer qu'il est aliéné. Aliéné par la communauté, vous comprenez? Parce que j'ai à côté de moi quelqu'un qui est une pivoine et moi je suis une violette. Alors la violette est aliénée par la pivoine. Il faut que la violette soit étincelante de couleur pour ne pas être aliénée par la pivoine. étant donné la quantité de la pivoine. Alors vous voyez, quand on a 50 personnes avec soi, quand on passe l'agrégation et qu'on a 1000 personnes devant soi, on se dit, hein, comment puis-je passer l'aliénation? On vous met dans un climat d'aliénation. Si vous étiez seul dans votre petite cellule, vous n'auriez pas les autres, vous seriez mieux. Beaucoup mieux. Il ne faut surtout pas regarder les autres. Il faut emporter avec soi. Si on pouvait faire ça, ce serait très amusant. Vous voyez, on emporterait sa petite maison, on se mettrait derrière. Je ne peux rien voir. Moi, je travaille dans le silence. J'aime pas de voir un regard qui me regarde. Quelqu'un qui m'arrête dans mon cours. Il m'aliène. Vous voyez, c'est l'aliénation, ça. Je ne suis plus autonome. Et le point de vue de la culpabilité, c'est le passé. Vous voyez, là, vous voyez très bien le passé, le présent et le futur. Et vous voyez très bien les oppositions dialectiques. Vous avez donc 6 sentiments du moi. C'est intéressant. Alors, est-ce que ces 6 sentiments du moi correspondent aux 6 dimensions philosophiques?